Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bon réveil sur BPM. Il est 8h03. Bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous du Mantois que nous proposons chaque semaine le vendredi à 8h. Et aujourd'hui, nous sommes à Évêquemont et nous sommes reçus par le maire Christophe Nicolas. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci de nous accueillir. Avec vous, nous détaillerons le projet de rénovation de l'école avec notamment l'installation de panneaux aéro-photovoltaïques. Nous reviendrons sur les différents projets environnementaux qui sont prévus à Évêquemont. Et puis nous évoquerons aussi le prochain départ du centre cardiologique vers Aubergenville. Mais d'abord, on commence par la guerre en Ukraine. Depuis quelques temps, donc, les communes se mobilisent dans les Yvelines. C'est le cas, bien sûr, à Évêquemont. Qu'est-ce que vous avez pu organiser de votre côté ?
Eh ben, dès les premiers jours, on n'a pas voulu être parmi les derniers. Donc on s'est organisé, on a fait un appel aux dons sur le site du village, sur les réseaux sociaux de la commune, pour avoir au départ des vêtements, des produits d'hygiène, tout ce qui se fait dans toutes les communes. Et donc ça a fonctionné, mais plus qu'on ne l'espérait. Du coup, on a la société qui fait du cartonnage juste à côté, Cire Emballage, pour ne pas les nommer, qui nous ont fourni énormément de cartons pour pouvoir envoyer tout ça, parce qu'on s'est retrouvé avec des sacs, mais... Donc on a eu des bénévoles du village qui sont venus aussi pour trier, parce qu'il fallait mettre aussi par âge, par taille, en fonction de tout ce qu'on avait. On a eu tellement on en a reçu. Et donc on a déposé tout ça à l'association La Gerbe à Écquevilly, et c'est eux qui se chargent de faire l'envoi du coup vers la Roumanie et l'Ukraine. Et dans un second temps, bah, du coup, j'ai été contacté par un administré qui lui voulait mettre à disposition deux logements pour recevoir des familles. Et donc, de ce fait, on a deux familles qui arrivent. Donc, une qui va arriver là, dans les heures, et la seconde dans 2-3 jours. Donc, on a en tout 7 personnes qui vont arriver sur le village. Donc, nous, on est vraiment mobilisés. Ces gens ont besoin d'aide. Donc, nous, on est là pour répondre.
On aborde à présent les projets à venir à Évêquemont, et ils sont nombreux. D'abord, il est prévu cette année l'installation de panneaux aéro-photovoltaïques sur le toit de l'école. Alors, qu'est-ce qu'ils vont apporter, ces panneaux ?
Alors, ces panneaux, ils vont apporter... Alors déjà, c'est un projet qui remonte à 2016. Voilà, on a travaillé dessus pendant des années, que la précédente mandature. Et donc, maintenant, on arrive au bout. Et donc, ces panneaux vont amener donc, de l'énergie pour l'école et aussi pour le village. Donc, on va pouvoir... faire fonctionner la mairie en électricité avec ses panneaux photovoltaïques, l'école. En fin de compte, à terme, l'idée, c'est que tout le village, je parle en bien public, hein, tous nos monuments, soient sur cette électricité. L'aérovoltaïque, c'est aussi une technique qui permet de mettre une soufflerie en route qui amène de l'air frais dans les classes en été, de l'air chaud. Ça amène quelques degrés en plus en hiver. Donc c'est une technologie innovante, hein, c'est différent du photovoltaïque, hein, ça lie vraiment les deux. Donc ça, à terme, c'est vraiment pour faire des grosses économies d'échelle en frais de fonctionnement sur la commune. Et surtout, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on serait quelque part indépendant en énergie. Et ça, c'est vraiment une volonté du conseil municipal.
Et ça serait prévu pour quand ?
Là, les débuts des travaux, c'est dans les semaines à venir.
Et au niveau des subventions, qui est-ce qui participe ?
Alors essentiellement pour ce projet-là, c'est donc la préfecture, donc l'État, qui nous subventionne à près de 80% pour ce projet. Donc c'est un projet qui représente autour de 400 000 euros, 450 000 euros. Et donc 80% viennent des subventions de l'État. Il y a une partie qui est donc pour l'innovation énergétique. Donc ça, c'est une subvention qui n'est pas courante. Donc nous, on en a à peu près pour 150 000 euros de ce côté-là, plus 140 000 de la préfecture.
Plus globalement, vous comptez investir dans la rénovation de l'école dans les mois à venir. Qu'est-ce que vous comptez modifier ou améliorer ?
Donc, on a une garderie, une cantine, comme dans beaucoup d'écoles, sauf que nous, on a près de 100 enfants dans notre école. Et là, au niveau de la cantine, ça coince. On ne peut mettre que 35 enfants. Donc, on a plusieurs services, c'est compliqué à gérer. Donc, l'idée, c'est de faire un jeu de chaises musicales, de faire une classe sous le préau, à la place du préau, faire la cantine, et à la place de la cantine actuelle, qui est toute petite, faire la garderie. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour améliorer la vie au quotidien et du personnel, mais surtout des enfants. Donc, nous, on sait que la population ne va pas évoluer du fait de la configuration du village, mais nos 100 enfants qui sont là, 80 à 100 enfants selon les années, on veut qu'ils étudient dans les meilleures conditions possibles. Donc, il faut mettre les moyens pour cela. Et autre chose, on n'a pas d'accès PMR non plus dans l'école. Donc, ça fait pas mal d'années que les municipalités différentes doivent le faire. Et donc là, bon, on profite d'avoir des subventionnements, c'est pareil. Hein, on est subventionné à près de 80% sur tout ce projet. Donc on en profite pour tout mettre aux normes et après passer à un autre projet pour la commune.
On passe au chapitre de l'environnement à présent. Vous souhaitez veiller d'abord au fleurissement du village. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ?
Ouais, parce que moi je suis donc déjà épiscomontois depuis 25 ans et je suis surtout ancien fleuriste. Donc, et autre chose, notre village, donc Évêquemont, dans les années 60, était le village le plus fleuri des Yvelines. Il a même été donc hors concours 2 années de suite. Donc, bah, moi, mon envie, mon besoin, c'est de vivre dans les fleurs. Donc, on fait tout avec les budgets participatifs de la région pour planter des arbres, arbres fruitiers, arbres des conifères, tout ce qu'on peut planter, mais surtout avoir un fleurissement abondant. Donc, l'idée pour ce mandat, c'est de réussir à planter à peu près 3000 plants sur le village. Donc là, on va en recevoir une cinquantaine cette semaine. On a planté près de 500 l'année dernière. Donc c'est vraiment... Alors, il faut que ça pousse, hein, c'est toujours pareil. Mais l'idée, c'est vraiment que le village soit fleuri au point de... Je ne vais pas dire bloquer la circulation, mais faire ralentir les véhicules dans le village. Parce qu'on sert de déviation pour de nombreux véhicules le matin et le soir pour éviter Melan. Et du coup, un fleurissement abondant fait aussi que les voitures roulent aussi moins vite dans les villages dans lesquels ça a déjà été tenté.
Alors pourquoi elles rouleraient moins vite, justement ?
Parce que la végétation va être abondante. Et donc, du coup, certaines rues qui sont pour l'instant à double circulation le sont toujours, mais on ne pourra passer qu'à une seule voiture. Le fait d'avoir des rosiers sur les côtés qui vont prendre de l'ampleur, les tailles des arbres et des plantes ne seront plus une priorité. Ça sera vraiment la priorité aux piétons et aux liaisons douces.
Alors, pour entretenir ce fleurissement, vous comptez embaucher un troisième agent technique.
Oui, tout à fait. Je vais faire voter ça au prochain conseil municipal donc, du 2 avril. Donc, en espérant que le conseil me suive. Mais bon, logiquement, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Mais bon, tant que ce n'est pas voté, mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais oui, c'est, on a besoin dans le village d'avoir une troisième personne. On ne peut pas avoir demandé du fleurissement et ne pas avoir le personnel derrière pour s'en occuper. Si c'est juste pour planter, et que derrière il n'y a pas l'entretien, dans 2 ans tout est mort et on investit pour rien. Donc l'idée c'est vraiment voir sur le long terme et très long terme, avoir vraiment un village qui soit, pour moi, digne de ce nom, quoi.
Et par ailleurs, vous souhaitez rénover la source près de l'école, ainsi qu'un sentier au niveau de la clinique. Alors est-ce que vous pouvez nous détailler quel est le problème actuellement ?
Donc, on a une source qui était inconnue quasiment de la plupart des habitants, même des anciens. Donc, on a commencé à défricher un parking, au fond d'un parking, une petite parcelle au fond d'un parking. Et là, on a découvert une source, justement. Une source, une grosse cavité, donc là, qui est en pleine rénovation en ce moment. Donc, elle va être visible à partir du mois d'avril, où là, on fait mettre l'électricité dedans. On ne pourra pas accéder à l'intérieur, bien sûr, mais quand les gens s'en approcheront, la lumière va s'allumer, ils pourront découvrir la source qui est dans le village, qui servait à l'origine à faire fonctionner le château d'eau qui est dans une propriété privée et qui servait à arroser donc le jardin. Un jardin, c'est même plus qu'un jardin, hein, c'est puisqu'il y avait un château d'eau privé, le parc du château d'Évêquemont. Ça, c'était à l'origine. Donc cette source, voilà, on est en pleine rénovation, pas toujours pareil, avec des subventionnements du parc du Vexin essentiellement et de GPSO.
Et pour le sentier ?
Et pour le sentier, du coup, oui, on est aussi un village qui est pas mal parcouru par les promeneurs. Et donc on a, avec le département, ils nous ont proposé plutôt une nouvelle subvention qui permet donc de rénover tous les sentiers du village. Donc on a le droit à quasiment 100 000 euros de subvention par an et par sentier. Donc là, vu que cette sente va de la clinique un peu vers le centre du village, donc c'était notre priorité pour lancer la rénovation. Donc là, elle est en cours. C'est un projet qui sera fini d'ici 15 jours, 3 semaines. Et donc on espère qu'elle sera pratiquée par de nombreux promeneurs.
Et vous souhaitez aussi réaliser des aménagements près de la forêt. Il y a un double objectif, l'environnement, mais aussi la sécurité.
Oui, exactement. On a donc le site de la Croix, qui est au bord de la D922, donc connu par de nombreux promeneurs, les sociétés de chasse, qui sont aussi locataires sur la commune d'une partie de la forêt. Donc les gens, pour l'instant, se garaient sur le bord de la D922. C'était assez dangereux. Donc on a décidé, avec le département, de rouvrir ce parking, entre guillemets, qui est un parking forestier, donc qui va être entièrement réaménagé à base de bois. Donc toujours pareil avec des subventions du département. C'est quelque chose qui au départ n'était pas prévu, ça ne faisait pas partie de nos projets, mais dès qu'une subvention arrive, on se dit finalement autant en profiter, c'est de l'argent public, mais autant qu'il serve pour les petites communes. Nous, on ne peut pas se le permettre. On a un budget quand même qui est assez restreint. Donc, dès qu'il y a une subvention, on trouve un projet qui va avec. Et donc.
Et alors, autre subvention dont vous allez profiter sur l'aspect écologique, c'est le budget participatif et écologique de la région Île-de-France, qui a lancé plusieurs sessions d'appels à projets. Donc, vous, la commune d'Évêquemont, vous avez participé à ce concours. Quels sont les projets qui ont été retenus de votre côté ?
Alors, pour le budget participatif, là, on est dans la troisième session. Donc, pour la première et la deuxième, on a renouvelé du matériel thermique, du service technique, par du matériel électrique. On a acheté des vélos électriques, donc trois vélos électriques mis à disposition des habitants pour 30 euros par mois. Et pour leur permettre aussi de découvrir le vélo électrique avant de faire un achat, parce que c'est toujours un gros investissement, donc ils peuvent le faire via la location de la commune. On va créer un verger pour lequel on était retenu. Donc là, on va avoir une cinquantaine d'arbres fruitiers. On a eu donc des bacs à fleurs pour apprendre aux enfants de l'école comment poussent les tomates, les fraises, les groseilles. Voilà, donc on a eu plus de 3000 euros de subventions pour des bacs et de la terre et des plantes pour l'école, là, vraiment pour les enfants. On a mis aussi en place, on est en train de la construire d'ailleurs avec les élus, on essaie de faire le maximum de choses en régie sur le village. Donc là, on est en train de monter une serre, pareil, ça rejoindra notre idée de fleurir le village à moindre coût. Donc on a une serre de 14 mètres carrés qu'on est en train de construire. On a encore pour le budget participatif...
Et pour la nouvelle session qui va arriver, vous avez déjà des idées?
Alors les idées commencent à arriver. J'ai fait un appel auprès des élus. Quand je croise des habitants, je leur demande. Donc là pour l'instant, on est en train de lister. Il n'y a rien de définitif, mais sinon c'est avant le 7 avril, date maximum. Et donc après, on verra si on est retenu. Et surtout, ça marche avec un système de vote participatif par les habitants. Donc si les habitants nous suivent.
Un autre projet qui concerne l'habitat cette fois. Vous souhaitez transformer une grange en logement locatif. Mmh. Alors détaillez-nous ce que vous prévoyez.
Donc on a une grange qui est dans une ancienne ferme et qui est à l'abandon depuis près de 30 ans. Et... on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin, de femmes qui ont besoin de quitter le logement, ou des fois aussi le mari, mais souvent des femmes qui ont des problèmes familiaux. Et donc l'idée, c'est d'avoir trois logements, donc deux qui seront en location classique, pour nous permettre de rentrer dans nos frais de cette rénovation, et un qui serait meublé. Donc on fera l'appel aux dons déjà auprès des habitants pour meubler cet appartement. Mais c'est surtout ce qu'on appelle, nous, un logement d'urgence. Donc si une femme, comme j'expliquais, une femme battue ou une personne qui a besoin de quitter rapidement son logement, la mairie sera là pour l'accueillir. Là, actuellement, il aurait été construit pour les familles ukrainiennes. Il aurait été à mes dispositions. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc le projet a pris un peu de retard du fait des financements. Mais durant la mandature, on s'est engagé à ce que ça soit mis en place.
Un mot sur le patrimoine. Vous menez des études actuellement pour une éventuelle restauration de l'église. Quelles sont les modifications à apporter ?
Donc on a une église qui a de nombreuses fissures depuis une trentaine d'années. Donc pour l'instant, on fait faire des études pour voir d'où vient le problème. Donc on a la DRAC, le ministère de la Culture, la région, le département, beaucoup de personnes, l'architecte du bâtiment de France, pardon, qui se sont rendus sur place. Là, donc, pendant 24 mois à peu près, 24-28 mois, on fait des diagnostics sur la structure. On a fait des diagnostics sur les fondations pour savoir, donc, du coup, d'où viennent tous ces problèmes. Et donc, on est en train aussi de faire classer l'église auprès du ministère de la Culture pour avoir un maximum de subventionnement. On espère atteindre les 90% si on est retenu, parce qu'on va avoir des travaux d'ampleur sur notre église. Il y a, je dirais, quasiment tout à reprendre. Donc c'est un bâtiment qui est en face de la mairie, on ne peut pas le laisser s'écrouler. Mais donc on peut toujours y accéder, les zones de danger ont été mises en sécurité. Mais on a vraiment besoin du subventionnement de la DRAC, donc du ministère de la Culture, pour pouvoir faire tous ces travaux à venir.
Là, le fait de faire classer l'église au titre des monuments historiques, ça augmente la subvention par rapport à son statut actuellement.
Oui. Disons qu'avec le statut actuel, on serait au maximum à 80% de subvention, mais ça, c'est le maximum. On peut être à beaucoup moins. En étant retenu par le ministère de la Culture, on monte à 90% de subvention, sachant qu'on aura des travaux pour plusieurs millions d'euros. Donc, même s'il n'y reste que 10% à la charge de la commune, c'est quand même un gros budget. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on arrive à la faire classer.
Parlons de santé maintenant. Fin décembre, on a appris que le groupe Vivalto va construire une nouvelle clinique privée à Aubergenville d'ici 2024. Et cette clinique réunira le centre hospitalier du Mont-Gardet ainsi que le centre cardiologique d'Évêquemont. Ça vous inquiète ce départ programmé de cette offre de santé dans la commune ?
Mais oui, surtout qu'ils viennent faire des investissements. Ils viennent de créer un IRM et un scanner donc ultra moderne à l'intérieur des locaux. Pour nous, c'est vraiment une perte. Hein. La clinique est là depuis les années 60. De nombreuses personnalités sont venues à Évêquemont se faire soigner. Alors, on n'a pas d'activité économique réellement liée, à part la chocolaterie du village. Mais voilà, c'est le seul commerçant qui est lié à la clinique, quelque part. Quand les gens viennent voir un patient, ça lui fait quand même un peu plus de clientèle. Nous, ce qui nous embête, oui, c'est vrai que c'est une perte. On va enlever 250 lits sur la commune d'Évêquemont. On va en enlever quasiment autant sur Aubergenville. Pour faire une clinique qui, elle, n'aura que 250 lits. Donc, à nous deux, on perd quand même près de 200 lits. Pour moi, c'est une offre qui est restreinte. Et c'est encore le...
Ça va encore baisser l'attractivité de la rive droite.
Tout à fait. Éole arrive rive gauche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la clinique aussi déménage. Hein. C'était pour se rapprocher d'Éole qui sera sur la rive gauche. Ça, c'était leur souhait. Et donc, du coup, nous, la rive droite, on est toujours les perdants, malheureusement.
Elle peut rester ouverte jusqu'à quand, la clinique ?
Elle est prévue d'ouverture jusqu'en fin 2024, au maximum.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez déjà des idées pour savoir ce que vous ferez du terrain laissé vacant ?
Déjà, il faut qu'on se rapproche du propriétaire des lieux, parce que Vivalto n'était que locataire de la clinique. Donc, il faut qu'on se rapproche du propriétaire. Donc, on attend un rendez-vous avec lui. Mais l'idée, ce serait de faire du logement, mais un peu haut de gamme, sur cette zone, sachant que le PLUI... Pour l'instant, on nous l'empêche, on peut faire qu'un établissement de santé. Donc, il faut déjà, avec GPSO, modifier notre PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, afin de pouvoir faire un nouveau projet sur le site. Mais c'est vrai que pour nous, il y a quand même aussi des habitants qui travaillent à la clinique. C'est vraiment une perte.
Mais du coup, le PLUI, il faudrait le changer ?
Ouais, il faut modifier le PLUI, parce que pour l'instant, on peut faire que des établissements de santé. Dans cette zone, c'est vraiment la zone de la clinique qui a été délimitée pour des établissements de santé.
Parce que le risque, donc, si vous ne modifiez pas, c'est quoi ?
Que ça reste une friche. Hmm. Voilà. Et donc, que ça soit squatté, que ça devienne no man's land, quoi. C'est quelque chose... c'est pas le but, quoi.
On termine cet entretien en parlant de ce qui se passe dans la commune. Qu'est-ce qu'il y a comme animation ? On retrouve notamment les potirons et un food truck sur la place de l'église.
Ouais, depuis qu'on est arrivé donc sur la commune, notre idée c'est quand même de créer un endroit où les gens puissent se retrouver. Donc au départ on voulait faire un café participatif. Pour l'instant on n'a pas les locaux, donc on cherche, mais pour l'instant on n'a rien. Donc on a fait venir un food truck qui était un habitant du village qui était en reconversion, qui avait un restaurant et qui s'est dit mais je veux être plus près de ma famille, donc il a voulu créer son food truck sur le village. Il a testé pendant un an. Bon, ça n'a pas fonctionné comme il le désirait. On accueille un nouveau food truck à base de hamburgers maison. Donc là, on pense qu'avec les jeunes, ça devrait fonctionner.
Ce nouveau food truck, donc, il est là depuis pas très longtemps.
Oui, il a commencé le dimanche 20 mars.
Et donc, on peut le retrouver où ?
Sur la place de l'église, en face de la mairie, tous les dimanches soirs, 18h30, 21h. Et donc, on a en même temps l'association Les Potirons, donc c'est Qualis. Donc, ils sont présents sur Les Mureaux, Conflans, qui ont une boutique sur Chanteloup. Et qui viennent vendre des produits locaux ou des produits fermiers. Donc, ils sont là tous les mardis sur le village. Et donc, ils nous ont proposé aussi une nouvelle attractivité, quelque chose de nouveau pour le village, en tout cas. Le fait d'avoir un atelier de couture, de tout ce qui tourne autour du tissu, de repassage, de lavage de linge. Bah, toutes ces choses-là ont été mises à disposition maintenant de la commune. Donc, on espère que ça va fonctionner pour eux. Ça fait quand même un peu plus d'un an qu'ils sont présents. Donc, il y a les habitués qui viennent et on organise de temps en temps une vente de crêpes, quelque chose comme ça pour faire venir les enfants et les parents auprès des Qualis. Parce que certains, quand les enfants viennent, les parents viennent en général. Donc, c'est toujours, toujours bon de les faire connaître et de connaître surtout la démarche. C'est pas juste vendre des choses. C'est derrière, il y a la remise dans le circuit de l'emploi pour les travailleurs qui y sont présents.
Merci beaucoup Christophe Nicolas de nous avoir reçus ce matin à Évêquemont.
Bah, c'est un plaisir.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Merci également à notre réalisateur Robin. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Juste après la pub, on retrouve Pauline et Fredo pour la matinale jusqu'à 9h. Très bonne journée à l'écoute de BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.